pas comment l'illustrer, qu'il faut établir une coupure entre ce qu'on a dit de mauvais sur la réforme qui nous est présentée jusque-là et ce que nous disons sur ces chapitres. Parce que on est aussi dans une posture un peu de gesticulation, on vous dit que tout est négatif, on a commencé par les frais de voyage, par l'équilibre géographique. Donc la tendance pourrait être de percevoir ce que nous allons faire sur cette partie comme étant la continuation logique, ils sont contre tout et donc ce n'est pas surprenant. Mais vraiment, en ce qui nous concerne, alors que le reste est négatif et on peut encore comprendre, ici c'est vraiment totalement en dehors de ce que nous arrivons même à concevoir dans la proposition de la Commission. S'il faut établir des lignes rouges, s'il faut établir ce qui ne sera jamais acceptable, ce que nous allons combattre jusqu'au bout, c'est vraiment cette partie de la réforme, parce que c'est d'une confusion intellectuelle, politique totale. Je ne sais pas si Pierre a raison sur tous les aspects du rapport dont il est question, mais ce rapport, à plusieurs passages, me semble un règlement de compte contre la réforme. Dieu sait si nous sommes d'accord sur certaines de ces critiques, parce qu'on les a soulevées en 2004, mais il est quand même hallucinant de constater que la Commission découvre dans ses rapports qu'il est possible dans une unité d'avoir un chef d'unité à DNF et un administrateur à D14. Et lorsque le projet de statut a été approuvé, défendu bec et ongle par les collèges, ils étaient où les esprits qui aujourd'hui découvrent que c'était inconcevable? Si la réforme du statut est faite à coup idéologique pour remettre la montre en arrière par rapport à ce qui a été fait, c'est tous les principes de continuité, de confiance dans le fonctionnement de cette institution qui sautent. Alors, autant on pourrait comprendre que les syndicats s'amusent aujourd'hui à remettre encore et toujours les faiblesses de la réforme sur la table, autant même ceux qui n'ont pas partagé cette approche et qui l'ont considérée comme étant dangereuse, voire irresponsable à l'époque, sont là pour vous dire on ne va pas saboter notre propre statut et on ne va pas donner en pâture notre statut simplement pour se sentir maintenant en paix avec notre conscience en dénonçant ce qui est prévu dans les statuts sur base de la proposition de la Commission. Et alors là, c'est encore plus difficile de comprendre les pourquoi les AD ne sont pas dans les paquets. Alors qu'est-ce qu'on attend? Que les conseils, sur base du rapport, découvrent que la Commission a raison de dénoncer qu'il est inacceptable que la D14 gagne plus que les chefs d'unité? Comment voulez-vous qu'on puisse s'épargner la copie conforme de cette réforme pour les AD, qui à la limite, sur base de raisonnement à la base du rapport, est même plus concevable que celle qu'on vient de faire, parce que c'est quand même extrapolé de dire que l'AST11 a un grade supérieur à son chef d'unité AD9. Ce sont deux groupes de carrière, ont des tâches différentes. C'est beaucoup plus frappant alors de dire que l'AD14 a 4 grades en plus, 5 grades en plus que son chef d'unité. Mais c'est tout le paradigme de cette carrière linéaire qu'on a introduit dans les statuts qui a été établi sur cela. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais maintenant on l'a. Et ce qui est encore pire, ce sont les mesures. Parce que si la Commission aujourd'hui disait, écoutez, on a fait fausse route en 2004, donc on revient à un système de carrière cloisonnée, on remet les C, les B, les A, on va essayer de reconstituer la logique de l'armée prussienne du statut 2004, de l'administration française, parce que ce qu'on a fait ne tient pas la route, est indéfendable, parce qu'on ne peut pas défendre qu'un directeur gagne moins que son administrateur, à la limite il y aura une cohérence politique. Mais ces bricolages sur les AST, en introduisant des procédures absolument incompréhensibles, en mettant la main à l'annexe MB, alors que ça fait partie des points qu'il ne faut même pas mentionner devant les conseils, avec une transition où on ne sait plus qui fait quoi, et pire encore, en plafonnant la carrière de ceux qui ont été recrutés après 2004. Non, mais là, sincèrement, dès que j'ai vu ça, je me suis dit que je n'avais pas compris. On a recruté des collègues après 2004, à des salaires très bas, voire insuffisant. Et on doit changer l'article 27 pour rééquilibrer parce qu'on n'a pas de salaire attrayant. On leur a dit qu'ils allaient compenser au cours de leur carrière les salaires d'embauche qu'on leur offrait. Et qu'est-ce qu'ils découvrent après 7 ans? Que plutôt que s'occuper de leur sort, on leur plafonne la carrière en ST7, alors qu'on leur a promis une carrière ouverte jusqu'en ST11. Mais ne vous en faites pas, chers collègues, vous allez pouvoir monter après. Par le biais de quoi? Par le biais de la nomination. Même pas concevoir une procédure soi-disant paritaire, à l'instar de la certification. Sincèrement, j'essaye de comprendre comment on a pu concevoir un machin pareil. Après, il y a encore les excédés qu'on va ressusciter avec une transition, avec des taux de promotion dans un annexe 1B bricolé avec quelques taux qui flottent. Les taux à 20% qui tombent à 8% sans que l'on récupère ces promotions ailleurs, parce qu'au moins, Je pourrais concevoir qu'on se dise c'est indécent de donner 20% de promotion à des collègues qui sont tellement hauts dans les grades, reprenons ces promotions et donnons ces promotions en bas de l'échelle aux collègues jeunes qui doivent progresser. À la limite, j'essaye de trouver une logique dans tout cela. Après, on vient aux AC, parce que alors là, c'est encore bien, encore mieux. Et je vois les petits sourires qui flottent dans les interlocuteurs en disant « Eh oui, maintenant, allons voir si vous allez avoir le courage de vous opposer aux AC CDI en vous mettant à dos les collègues agents contractuels. » Eh bien oui, nous allons avoir le courage de dire non aux AC CDI dans les services en remplacement des fonctionnaires. Oui, nous allons le dire. Nous allons l'expliquer aux collègues agents contractuels. Et nous allons en faire une ligne rouge de notre négociation. Et nous n'allons pas accepter des compromis pour cela, parce qu'on ne va pas faire disparaître toute une question. Simplement par le plaisir de les remplacer par des collègues agents contractuels. Tout ça, sincèrement. Je me demande si on ne devrait pas, à ce stade, après avoir fait ce tour de table, se dire est-ce qu'il y a, sur cet aspect-là, un esprit de négociation ouvert de votre côté. Parce que je ne veux pas dramatiser la situation, mais si, sur cela, et sur les paramètres de cette proposition, il n'y a pas une ouverture de négociation, je me demande sincèrement s'il y a encore beaucoup de sens à négocier le reste. Prenez quand même acte que les OSP sont unanimes sur ces positions, que les administrations du Conseil et du Parlement émettent des réserves, que la rapporteuse au Parlement émet des réserves, que vous êtes dans une contradiction totale par rapport, par exemple, à l'équilibre géographique, parce qu'on va prendre sur base locale les secrétaires, agents contractuels, alors que vous êtes tellement concernés de l'équilibre géographique jusqu'à changer l'article 27. En donnant l'impression que le seul équilibre qui compte, c'est celui des chefs et petits chefs, et le reste, on s'en fout. En remettant sur la table les propos de quelqu'un qui, à l'époque, nous a expliqué, ne vous en faites pas, l'armée anglaise gagnait les guerres avec les officiers anglais, les soldats indiens. Sincèrement, c'est vraiment un appel au bon sens. Essayons de remettre les choses dans un contexte beaucoup plus raisonnable. Abandonnons de manière très claire l'option pour les agents contractuels. On est dans une réformette politicienne pour plaire au Conseil. Évitons toutes les mesures structurelles irréversibles, parce que tout le reste que nous avons discuté jusque-là, dans un autre contexte politique, on pourra les gérer. L'horaire, on les monte, un jour on pourra les réviser. Les frais de voyage, c'est marginal. La méthode, on a vu que ça même donne des résultats même positifs. On peut discuter techniquement, mais ici, on met en place des changements structurels qui n'ont aucun sens. Alors, je reviens à qu'est-ce que nous défendons, parce qu'on n'est pas non plus totalement dépourvu du bon sens. Pierre nous a expliqué, en 2004, on a fait disparaître le métier secrétaire. À notre avis, encore et toujours, ça a été une erreur. Parce que les secrétaires existent, les secrétaires ont un métier, les secrétaires sont nécessaires, et faire semblant qu'il y a un groupe mixte d'assistants qui est toujours traité à la même enseigne, ça ne correspond pas à la réalité du terrain. Les services ont besoin d'assistants, mais aussi besoin de secrétaires. D'ailleurs, le fait qu'on n'ait plus de secrétaires, on a des assistants, c'est qu'on recrute des personnes pour accomplir ces tâches qui n'en ont pas envie. Nier cela, ça ne sert à rien, parce que si nous continuons à nier l'évidence et la réalité, nous nous affaiblissons politiquement. Vous voulez qu'il y ait une carrière secrétaire, fonctionnaire. Discutons de la possibilité hypothétique que l'on ait une carrière secrétaire fonctionnaire. Et surtout, garantissons que le passage d'un groupe à l'autre se fasse de manière transparente et paritaire. Parce que remplacer la promotion par la nomination, ça induit un élément d'opacité totale dans la carrière des collègues, ça les met dans les mains de la hiérarchie. Le fait que l'on puisse passer d'un grade à l'autre par des procédures plus rigoureuses, que la responsabilité soit prise en compte, que le taux de promotion soit baissé, c'est tout à fait possible et raisonnable. Nous l'avons défendu même dans les REC. Mais remplacer l'avancement des carrières par le biais d'une promotion, d'un exercice paritaire, par la simple nomination sur le poste qui est publié d'office pour la personne qu'on a décidé de nommer sur ce poste, c'est vraiment un élément d'opacité, de frustration totale que vous introduisez dans le système. Vraiment, c'est un appel qu'on vous lance. Essayons de ne pas gérer ces volets comme nous sommes en train de gérer les autres, parce que c'est un volet excessivement compliqué, difficile. Sur cette base, j'ai l'impression que nous pourrions discuter beaucoup mieux si la copie était profondément révisée, quitte à regarder ensemble si les économies escomptées sur ces volets-là, on peut les compenser autrement. Il est possible de trouver des économies, nous avons des idées, on va vous les soumettre, mais surtout, vraiment, ne nous attaquons pas à des paramètres de fond de notre fonction publique.